Nous sommes mercredi 3 mai 2023, vous vénérez la Sainte Casserole et vous écoutez le Dojo Bar. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Zergy.
Salut.
Bonsoir Mecton.
Salut.
Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Bonsoir Antix.
Bonsoir.
Voilà, tout le monde est là, tout le monde est réuni. Non, absolument pas. Le programme de ce soir, alors voilà, encore une fois, on va pas se cacher, c'est un petit peu une émission bouche-trou. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore Tears of the Kingdom et l'actualité est un peu molle, je pense qu'on peut le dire.
L'actualité, c'est qu'il a fuité. Voilà, fin de l'actualité.
C'est à peu près ça. Du coup, on va essayer de faire en fait une espèce de gros pot pourri des trucs qui sont sortis récemment auxquels on a joué et ou qu'on a fini, mais qui méritaient pas un sujet à eux tout seuls. Et voilà, on va essayer de faire une espèce de gros regroupement.
Le backlog a pris cher, mais il en reste encore pas mal. Hein.
Oui, voilà, on a réussi à trancher un peu dedans, mais pas jusqu'au bout. Donc au programme de ce soir, nous allons parler de Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Vous savez que j'adore les titres très très longs. Là, c'est vrai qu'on a eu un beau record récemment. Mais voilà, si vous suivez le Twitter du dojo, vous avez, ou le bastogon du dojo, vous avez dû le voir. Nous allons parler du dernier DLC, du coup, de Xenoblade Chronicles 3.
Yep. Un avenir retrouvé.
Un avenir retrouvé, tout à fait, j'ai pas noté ça. Et nous allons parler un petit peu de Advance Wars 1+2 Reboot Camp, parce que c'était quand même une sortie qu'on attendait depuis un petit moment. Et on a fait un gros dossier sur le dojo, sur la série Advance Wars, pour notre série d'articles, les archives de Cranky. On a rejoué à l'intégralité de la série avec Jean Fulgence, c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'il soit pas là, parce qu'il aurait pu en parler un petit peu mieux que moi. Mais voilà.
Ouais, bah lisez-les, ils sont excellents ces articles.
On a essayé vraiment d'être le plus complet possible, mais donc on reviendra dessus. Mais il y a 2 semaines, nous avons eu un indé direct, et donc nous allons essayer de décortiquer un petit peu ce indé direct avant de passer à la suite, puisque, encore une fois, en termes d'actu, c'est un peu la S. Hein, on va quand même pas se cacher. Je les passe dans l'ordre chronologique, il y a peut-être des choses sur lesquelles on dira pas grand-chose. Hein.
Vas-y, parce que je l'ai regardé une demi-heure avant la prise d'antenne, donc c'est à peu près frais dans ma tête.
Voilà, moi je l'ai re-regardé, pareil, une petite demi-heure pour avoir le truc à peu près frais. Donc c'est quand même important. Ça a commencé par Mineko's Night Market de Myoza Games et Humble Bundle, donc qui est un jeu dont la particularité est d'être développé en Chine, par une équipe chinoise, donc, qui est à mi-chemin entre Animal Crossing et... Un petit jeu d'aventure narratif, je dirais.
Ouais, c'est ça, je l'ai vraiment compris comme Animal Crossing avec un scénario.
C'est ça, ça a l'air sympathique, pas extraordinaire, mais... L'ADA est cool, voilà.
Est-ce qu'on gagne du crédit social si on y joue?
C'est possible, comme c'est un jeu chinois, il est possible qu'il soit relié directement à ton compte TikTok, et ça c'est important. Que tu puisses faire des danses débiles à chaque fois qu'il se passe un truc.
My god, donne pas des idées comme ça.
Toutes les semaines, il y a un marché de nuit dans la ville dans laquelle on est qui s'appelle Mineko, et donc l'idée c'est de pouvoir monter un petit stand, de vendre des trucs, et en fait dans la semaine, on vit des aventures, on fait avancer l'histoire et tout ça, et puis ben, la nuit du marché, on est sur le marché, on essaie d'avoir des clients satisfaits et tout, donc on est vraiment dans un esprit, je trouve, effectivement très Animal Crossing, croise, un petit jeu d'aventure sympa.
T'es sûr que c'est fait en Chine? Parce que ça fait vachement capitaliste quand même.
Alors, tu contribues à la communauté et à la gloire de la Chine.
Donc, ah, ok.
Ensuite, il y avait eu My Time at Sand Rock, qui en fait est la suite plus ou moins directe de My Time at Porsche, qui était plus ou moins d'inspiration les trucs qu'on fait pousser des légumes, genre Harvest Moon. Sauf que là, ça se passe dans un désert et qu'on a plutôt l'air d'être bricole picole en fait, le mécano du coin.
C'est le Dark Souls des jeux de ferme. Pousser des légumes dans le désert.
C'est déjà plus compliqué. Je sais pas s'il y a grand chose à en dire, My Time at Porsche a été quand même... Ah non, c'est le Piu-Piu Bar. Oh non, dites pas qu'il y a des piou-piou. Bon alors attendez, pause piou-piou, je vais vérifier s'il y a des piou-piou. Faut pas dire ça les gens, sinon moi après j'ai peur. Y a-t-il des piou-piou? Y a-t-il des piou-piou? Non, y a pas de piou-piou. Voilà, donc c'est tout, y a pas de piou-piou, arrêtez. C'est pas gentil,
Nazir. Franchement,
c'est vraiment le truc de connard, parce que ce matin il disait, ça y est, y a des piou-piou là maintenant, tu vois. Puis je vais être obligé d'aller vérifier.
GG le chat, j'aime beaucoup ce que vous faites.
Le chat n'a pas d'humour. Donc je reprends. Quitte. on y retourne. Donc, My Time at Sandrock. My Time at Portia, je sais, s'était fait un petit peu allumer sur Switch pour des questions de technique. Une technique un petit peu défaillante à la sortie.
Même la suite, là, c'est pas hyper beau, mais ça a l'air de bac à sable en mode je craft un peu des trucs dans tous les sens, donc ça a peu expliqué.
Oui, ça, je me doute que tu rigoles bien. Ah, mais alors, Jean Fulgence, si tu es dans le chat, ça veut dire que tu peux revenir. Donc, tu as le droit d'arriver sur le plateau, si tu en as la capacité, bien entendu.
Non, c'est sa conscience virtuelle.
C'est peut-être son chat GPT à lui. Ensuite, on a eu Kills and the Cats of Calico. Qui...
Ah, t'as loupé.
Platop, oui, pardon.
Platop. J'ai cru à un nouveau Overcooked.
Alors, c'est presque ça.
Overcooked roguelike. C'est qui est souvent dur,
c'est... Ouais, c'est Overcooked roguelike, mais en fait simulateur de trucs automatiques pour faire des choses. Donc, j'ai pas compris. Le concept m'a échappé. Jeu de gestion roguelite avec collaboratif. Donc c'est entre Overcooked et Dark Souls, en fait.
Ça fait deux fois qu'on le place. Hein.
Ouais, putain. Non, mais c'est normal. J'ai pas compris Playtop, honnêtement.
Bah, je veux dire, même le design des menus, pour moi, c'était Overcooked.
Ouais, mais ça ressemble à, en fait, à un mauvais Overcooked, parce qu'un Overcooked dans lequel tu aurais des éléments de roguelite, honnêtement...
Ouais, alors, ça, le côté roguelite, c'est plus... T'as pas de succession de niveaux définis, quoi. Ça va être de du niveau random généré. Donc, comme d'hab, tu peux avoir du bol et puis rouler sur un niveau, et puis le niveau d'après te prend de toutes les saloperies du monde et avoir un truc infinissable.
Super. Un roguelike, donc. Merci beaucoup. Je vais faire une emote. Tu sais, on avait l'emote RPG, je pense que je vais faire une emote roguelike.
Il est méchant.
Tu te fais rouler dessus et c'est de la merde.
Ça va être assez simple. Il est méchant.
Kill set de Cats of Calico qui a l'air un truc assez nul. Enfin, c'est une espèce de jeu de plateau.
C'est ça, c'est Calico, donc c'est un jeu de société, mais là ils l'ont skiné avec des chats.
Voilà, et des jolis motifs pour le.
Oui, pour faire des couettes.
Donc, cool bro. J'étais là genre. Enfin, ouais, cool. Rift of the Necrodancer qui est donc la suite spirituelle de Cadence of Hyrule qui est elle-même la spin-off de... Enfin bref.
Donc ça oui, ça grand oui. Ne serait-ce parce que le délire de la série où tu dois absolument tout faire en rythme, y compris te déplacer, j'adhère beaucoup. Et celui-là a une petite vibe Rhythm Paradise qui me parle beaucoup.
Voilà, moi je pense que je vais préférer ça parce que vous savez que Crypt of the Necrodancer, tout comme Cadence of Hyrule, me sont sortis par les yeux, je trouvais ça ignoble. C'est le côté roguelike, moi, qui m'a rebuté très 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 vite.
Ah, tu l'as pas dans Cadence. Pour ceux qui nous écoutent, dans Cadence, il n'y a pas de côté roguelike, à part sur le stuff. Ok.
Bah, okay. Il y a quand même suffisamment pour que ça me pète les noix, quoi. Mais...
Ok. Ah ouais, t'es vraiment allergique, alors. Ah,
j'ai vraiment un énorme problème avec le roguelike de manière générale. Hein. Maintenant, quand je vois marqué roguelike, je me sauve. Je m'en vais. Mais voilà, ça me gonfle. Mais je comprends hein, les gens qui aiment bien ça, je peux concevoir, mais moi je j'arrive pas à le faire. Mais là, on est plus sur une espèce de Guitar Hero.
Le Guitar Hero a l'air d'être un des mini-jeux dans le jeu.
Tout à fait. A Little to the Left, alors ça c'est un jeu qui est sponsorisé par la France Insoumise, a priori.
Faut faire la révolution, faut foutre le sbeul.
C'est ça, c'est le concept, faut foutre le sbeul. Non, pas du tout, je sais plus du tout ce que c'est. Alors celui-là,
ça fait un petit moment que je veux l'acheter, mais enfin, le backlog, c'est une montagne. Il me fait peur, ça va s'écrouler, ça va me tuer. C'est un jeu de puzzle qui est parfait pour les gens qui ont des petits tocs. C'est une succession de tableaux qui sont des énigmes où il faut, allez, je simplifie au max, ranger des objets dans un certain ordre. Donc. Si c'est des bouquins, les classer par taille, aligner des choses, bah voilà, ah oui, ranger tout ça bien pour que ça soit très satisfaisant.
C'est ça.
Et de temps en temps.
C'est pour les gens qui ont de la satisfaction, quoi.
C'est ça. Et de temps en temps, tu as un chat qui vient foutre le bordel là-dedans.
Ah oui, parce que c'est un chat. Donc on est parfaitement dans le. D'accord. Donc ça a l'air tout à fait sympathique.
Est-ce qu'on peut taper le chat ?
J'espère.
Je ne crois pas.
Bah, c'est pas un vrai truc de la France Insoumise dans ce cas-là. Si on peut pas taper sur sa bonne femme ou le chat, je vois pas l'intérêt. Voilà, ça c'est gratuit, c'est pour moi aussi. Shovel Knight Pocket Dungeon qui va avoir un DLC puzzle. Voilà.
Il est sorti du coup.
Et il est sorti, oui, c'est disponible maintenant ou non, c'était disponible au printemps, me semble-t-il.
Ok.
J'avais noté au printemps.
D'accord.
Il va y avoir un premier DLC pour Cult of the Lamb, le jeu un petit peu surprise de Massive Monster, et Devolver Digital. C'est le jeu qui fonctionne en corrélation avec Twitch, pour les gens qui jouent sur Twitch. Et dans lequel les gens sur le chat Twitch peuvent, alors je sais pas exactement comment ça marche en jeu sur Switch, mais je sais que sur PC c'est le cas, peuvent influencer le culte que tu essayes de créer dans le jeu.
Donc c'est assez drôle ça.
Et donc là il y a une petite mise à jour qui est disponible dès maintenant. Animal Well, ça, alors c'est des trucs avec des animaux mignons, donc ça va plutôt être ton truc.
Alors non, celui-là c'est celui qui a une ambiance très creepy où t'as l'impression que tout est à base d'hologrammes. Alors j'ai surtout retenu la présentation complètement pétée des deux développeurs où pendant que t'en as un qui parlait devant la caméra, l'autre faisait le con derrière à sauter sur les cailloux dans la rivière.
Et effectivement, je me rappelle bien de ce moment, c'est peut-être pour ça que le jeu m'a échappé.
Et voilà, le jeu derrière, donc il y a une DA très particulière, pixel art, mais comme si tout était projeté, comme si c'était des hologrammes, et ça a l'air assez creepy. Après, au-delà de ça, bah, ça reste un jeu plateforme énigme. Tel qu'ils le vendent, la particularité, c'est qu'a priori, il y a des tonnes et des tonnes d'objets, et que en ramassant ces objets, il faut comprendre à quoi ils servent.
Ça
peut être drôle.
Ensuite, on a eu Crime O'Clock, qui est un jeu d'investigation qui avait l'air tout à fait sympathique, avec un style dessiné, crayonné.
Où est Charlie ?
Un peu, voilà, un mélange entre un jeu d'investigation et Où est Charlie, c'est assez rigolo. C'est exactement ça que ça m'a fait penser, en fait, c'est vraiment à Où est Charlie.
C'est ça, t'as un énorme tableau plein de détails. De ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a un merdier temporel où en allant changer des choses dans le passé, on influe sur le futur et ça met à jour certaines zones du grand dessin.
Voilà, et ça a l'air tout à fait sympathique. Ensuite, on a eu l'annonce de Tesla Grad 2, qui est donc la suite de Tesla Grad, qui est un jeu qui était déjà sorti sur Wii U il y a de nombreuses lunes. Et de Tesla Grad Remastered, alors c'est pas des mauvais jeux, c'est des jeux d'action plateforme un peu exigeants.
Je sais pas, je l'ai toujours pas fait, il est à côté de moi. Alors, il est
moi,
encore emballé.
Je l'avais fait sur Wii U, monsieur.
Oh.
Oui, monsieur, en physique, s'il vous plaît. Parce
que à l'époque, attends, avoir un backlog sur Wii U, c'était possible.
Ah, c'était jouable, mais tendu quand même. Hein.
Ah, ouais.
Si, et Mighty No. 9 que moi j'ai pas fini parce que c'était de la merde.
Parce que voilà.
C'est plus parce que c'était de la merde. Voilà, bon, pourquoi pas. Alors, Tesla Grad, j'en garde pas un excellent souvenir. Je me souviens que le jeu était un peu poussif sur la fin. Au sens où ça devenait un peu lourd. En fait, c'est le jeu qui, effectivement, on disait tout à l'heure, le jeu qui a le bon sens de s'arrêter quand il n'a plus rien à dire. Là, en l'occurrence, il continuait à ouvrir sa gueule alors qu'il n'y avait vraiment plus rien à dire.
Ouais.
Donc, à un moment, voilà. Mais ça, c'est sur Tesla Grad 1. Alors, il y a un Tesla Grad Remastered. Je sais pas trop ce qu'ils vont remasteriser parce que le jeu est sorti il y a 10 ans, certes. Mais enfin, c'était déjà du Unity, c'était déjà en HD, c'était déjà relativement joli parce que c'est façon bread, c'est-à-dire plutôt des aplats de couleurs, choses comme ça.
Je sais que ça m'y faisait penser. Et justement, là, je viens de vérifier. On n'a toujours pas de nouvelles de la sortie de Braid sur Switch. Et ça, c'est dommage.
Effectivement. Ensuite, on a eu Shadow Over Loathing. Alors,
RPG. West, c'est ça. Mais c'est un RPG.
Ah oui, c'est le des mecs de West of Loathing.
C'est la suite.
Ah.
C'est la suite et c'est du RPG. Enfin, si vous avez aimé les RPG sous Spark, c'est dans la même veine. En moins vulgaire, moins grossier, mais en mode parodique tout pété, ça marche très bien.
D'accord, d'accord. Ensuite, on a eu Blasphemous 2. Qui est donc la suite de Blasphemous, hein, merci beaucoup Captain Obvious. Blasphemous qui était supposé être
un Metroidvania.
Ouais, avec une ambiance un peu glauque, avec des boss un peu à la Dark Souls, avec des trucs comme ça. Et en fait, le jeu tourne assez rapidement en rond, je trouve. C'est pas le... Enfin, on dit que des fois c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, là c'était pas le Metroidvania le plus excitant de la gamme. Hein. C'est
ça, ça joue beaucoup sur son ambiance. Toi j'aurais dit à la Berserk, un truc violent et glauque. Bon, il y avait une ambiance sympa, mais je suis ok avec toi, au bout de 2 heures ça commence à tourner en rond. Le jeu est court.
Oui voilà, il avait pour lui d'être assez court, mais il avait, je trouve par exemple, une carte qui était pas hyper intéressante. Il avait cette tendance qu'à Dark Souls, ça fait je sais pas combien de temps qu'on référence Dark Souls, ça a commencé à me saouler grave. Mais il avait cette tendance à avoir des, tu sais, des objets, des trucs absolument pas clairs. C'est-à-dire, c'est pas le truc où t'as un petit, mais tu ramasses un objet, on te met un message texte pour dire, oui, alors cet objet, si tu te le colles dans le cul, tu vas augmenter ta virilité de 20% et ça te permettra de taper plus fort. Dans l'ordre, disait, tu as récupéré les larmes d'Odin, et t'étais là, genre, oui, j'en fais quoi? je me torche avec, enfin tu vois, et je trouve ça pénible. Et y compris des trucs qui sont parfois des malus, enfin le truc qui a à peu près aucun intérêt, je trouve, mais bref. Donc, les mecs ont eu du succès, ils font un 2, tant mieux pour eux, pas de soucis. Je suis très content. Paper Trail.
T'as zappé Oxenfree exprès, hein, c'est ça?
Non. Alors, j'aime pas Oxenfree non plus.
T'as pas, c'est pour ça que j'en étais sûr que t'avais pas aimé. Oui, bah, je comprends pourquoi. C'est jeu d'aventure énigme à la limite dans ambiance point and click de la belle époque. C'est très verbeux. Le scénar est un petit peu obscur. Mais si vous avez accroché au 1, bah, voilà, bonne nouvelle, il y a un 2. Quoi.
Je pense qu'en fait, c'est ça. Si t'as accroché au 1, bonne nouvelle, il y a un 2. Moi, c'est vrai que le 1, j'avais pas... je l'ai acheté, j'y ai joué quelques heures. Et en fait, ça m'a vite gonflé parce que le truc, il a plein de trucs à raconter. Et moi, j'ai juste pas envie d'écouter, j'avais envie de jouer. Et en fait, c'est quand même beaucoup plus un jeu narratif.
C'est ça, c'est à la limite si du présente, visual novel.
C'est
hein.
ça, c'est vraiment à la limite. En tout cas, le 1 l'était, le 2, je ne sais pas si ce sera le cas. Donc, Paper Trail, comme ça, j'arrête de zapper les trucs.
J'ai pas compris.
C'est un jeu d'aventure et puzzle, mais j'ai effectivement pas compris non plus.
Ouais, ok. Des petites énigmes, quoi. Ok.
Voilà. Little Kitty.
Oui, un jeu où tu joues un chat connard.
Ça, c'est bien ça.
Ouais.
Ça, ah bah, on aime.
Tu joues le chat qui dérange, qui fout le bordel.
C'est ça. Ouais,
c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais.
C'est Stray, mais en version je fous la merde. Donc ça, c'est très bien. En tout cas, moi, ça me tente bien.
Ouais, pareil.
Chance of Senar. Je me souviens plus du tout. C'est encore un puzzle game, mais I have no clue.
Alors là, j'ai dû cligner des yeux parce que je me rappelle pas de celui-là. C'est moche ben voilà. pour eux.
C'est moche pour eux, mais. Je suis désolé. Fallait avoir un meilleur titre. Tu vois, ça aurait été Chance of Senar, The Cats of Calico and the Animal Well. Là, on l'aurait eu, quoi. Bref, Brotato, qui était un roguelike, qui se joue à plusieurs, me semble-t-il.
Ça a l'air d'être un shooter, ce bordel, non?
Ouais, c'est ça. Pas plus marqué que ça. Escape Academy. Alors là, il y a du monde derrière. Et ça a l'air d'être plutôt sympathique. C'est a priori plutôt aventure puzzle façon escape game.
C'est ça. Mais de ce que j'en ai vu, alors de tout ça, là, c'était dans le montage rapide, donc on a vu très peu d'images. De ce que j'en ai compris, c'est que ça a l'air d'être des mécaniques à base de... Comment on appelle ça? Des machines infernales, là, les trucs où on fait des réactions en chaîne. Donc je sais
ça,
pas
les, voilà, les Incredible Machines
voilà c'est ça où en gros bah des dominos qui tombent qui font tourner une poulie qui font virer une boule machin tout ça pour ouvrir la porte et passer à la pièce d'après
où on en était Five Nights at Freddy's Security Breach bon ben Five Nights at Freddy's on commence à se connaître
j'ai toujours pas goûté à la série mais pareil qu'il y a un film en préparation
ouais c'est un jeu à youtubeur en fait
ok.
Donc, bon, c'est un jeu d'horreur.
C'est quoi, c'est du jumpscare.
C'est jumpscare, mais apparemment...
Ça ne m'a jamais attiré.
De ce que j'ai compris, alors je comprends que ça ne puisse pas attirer, parce que c'est vrai que ça n'a pas...
Déjà l'esthétique, bof.
Ouais, c'est ça. Mais en vrai, Five Nights, c'est... Enfin, ils ont commencé apparemment à partir du 2 ou du 3, je sais plus, à commencer à faire des trucs, mais moi le truc c'est quand tu sors 5 jeux en l'espace de 2 ans, je me dis qu'il y a quand même un truc qui va pas, quoi. Donc.
C'est des extensions, c'est des DLC?
Non, je crois pas que ce soit des DLC, parce qu'à chaque fois il y a un numéro. C'est genre Five Nights at Freddy 2, maintenant ils sont dans un centre commercial. Ouais.
Alors qu'ils l'auraient appelé Super Five Nights at Freddy's HD Turbo, ça passait.
Featuring Cranky, non, Funky Kong, c'était parfait. Bref, et on a fini par Bomb Rush Cyberpunk.
Alors je suivais ça de loin, il a fait un peu de bruit sur les réseaux, mais j'ai pas compris ce que c'est, à part que ça a une esthétique à la Jet Set Radio.
Bah, j'ai l'impression que c'était ça l'argument de vente, mais par contre, voilà, action-aventure, donc je sais pas trop ce que ça va donner.
Donc, on n'a pas eu de nouvelles de Braid, on n'a pas eu de nouvelles de Silksong.
Oui, alors celui-là, c'est l'Arlésienne. Hein.
Ouais, je sais pas combien ils sont, c'est Chucklefish qui est dessus. Je crois qu'ils sont
ça 3 fait ou 4. Silksong, ça fait combien de Metroid Prime 4?
Bien joué.
Ouais, non, mais là, ça devient compliqué. Hein. Bref, donc effectivement, on a eu... Bon, ça, quand même, ça faisait un peu de consistance, mais c'est vrai que je comprends qu'on puisse être déçu. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de jeu hyper ultra marquant dans l'ensemble de ce que nous avons vu.
Ouais.
Et c'est un petit peu dommage, on va être honnête quand même, de se retrouver avec un des directs un peu mou du genou. J'espère que après la sortie de Tears of the Kingdom, quand on va être fin mai, qu'il n'y a pas 2-3, j'espère qu'il y aura un Nintendo Direct qui va regonfler un peu tout le monde pour l'été, ce serait quand même pas mal. D'autant plus qu'on attend des jeux dont on a vu peu de choses, je pense à Pikmin 4 par exemple.
Oh, il est toujours prévu pour cet été en plus, ça va arriver vite.
Tout à fait, ça va arriver très vite, c'est pour ça que c'est quand même étonnant qu'on n'ait pas eu une présentation, un truc. Donc je m'attends à ce que mi-mai, un petit peu après Tears of the Kingdom, une fois que le soufflet sera un peu redescendu, même si le soufflet risque de pas redescendre tout de suite, on puisse arriver à faire des choses un peu fun. Bref, nous allons marquer une première petite pause musicale et nous allons nous écouter un petit morceau de la bande originale de Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. C'est le thème de la tour de garde, la tour de guet, pardon, de Watchtower dans le jeu. Ça vous donne bien une petite idée de ce que fait le jeu en termes de musique, parce que c'est vraiment une ambiance musicale assez particulière par rapport à la série principale Bayonetta. Et donc, eh ben, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Et donc nous allons parler, alors je précise, pour la bande originale de Bayonetta Origins, donc c'était Aoba Nakanishi, Itomi Kurokawa, Masahiro Miyauchi et Rina Yugi. Voilà, comme ça je les ai pas oubliés, je les avais oubliés tout à l'heure. Mais on n'oublie jamais les artistes sur le dojo, en tout cas on essaye le plus possible de ne pas les oublier. Bref. Donc Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, que tout le monde a appelé gentiment Bayonetta Origins parce que c'est quand même un peu plus simple.
Ouais, et puis comme ça déborde pas dans l'overlay, c'est bien.
C'est ça, bah là ça déborde bien dans l'overlay, hein. pas de doute, mais ça fait plaisir. Donc c'est un jeu de la alors c'est un spin-off de Bayonetta avec
spin-off
vite fait quand même, hein, ça reprend une partie de l'univers de Bayonetta. Alors, beaucoup plus sur la fin, du coup, je vais pas te spoiler non plus, Mecton, parce que je sais que tu es à peu près à un gros quart du jeu, on va dire, donc...
C'est ça.
Alors, comme je l'ai fini, donc j'ai le droit d'en parler. J'ai le droit d'en parler, j'ai fini.
Oui, alors, on va pas relancer le débat, faut-il avoir fini un jeu pour en parler, hein.
Voilà, mais bon, moi, voilà, je l'ai fini, j'ai vraiment bien aimé, en plus. Donc, c'est un jeu qui s'inscrit plus dans la... Effectivement, dans, on va dire, dans le lore de Bayonetta, qui reprend le personnage de Cereza, donc Bayonetta elle-même, hein, la sorcière... mais Bayonetta jeune, donc elle a 10-12 ans, quelque chose comme ça. Elle est apprentie sorcière, comme Sabrina.
Ouh.
Ça vous fait plaisir, j'espère.
Ah, mais c'est pour ça qu'il y a un chat.
Non, pas du tout.
Merde, j'ai rien compris, hein.
Bordel de merde. Elle est apprentie sorcière à côté d'une espèce de forêt mystérieuse qui sont envahies par des fées maléfiques. Alors évidemment, comme c'est Bayonetta, l'univers, donc les anges sont maléfiques, les démons sont maléfiques, les fées sont maléfiques, les humanoïdes sont maléfiques, tout est maléfique. Hein, tout lui veut du mal.
C'est sa bonne ambiance.
C'est sa bonne ambiance. Et donc,
c'est
elle
l'Australie,
est...
en fait.
C'est un peu ça. C'est des forêts en Australie. c'est un peu le concept. Et donc, sa préceptrice lui interdit d'aller dans la forêt, mais un concours de circonstances malheureux va faire qu'elle va se retrouver attirée dans la forêt avec un démon qui se retrouve incarné dans sa peluche. Alors, Cheshire en VO, Cheshire. Donc, Cheshire, Cheshire en VO. Chouchou dans la VF, ce qui est un peu bizarre.
On perd la ref. Quoi. On en parlait en off.
On perd une grande partie de la ref. Alors il y a énormément de références, alors énormément. N'exagérons rien, mais il y a pas mal de références à non pas Alice au pays des merveilles, mais sa suite, De l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir étant un livre un peu particulier puisque c'est la suite d'Alice au pays des merveilles, mais en fait la plupart des gens qui font des références à Alice au pays des merveilles font en réalité des références à De l'autre côté du miroir. Typiquement, le morse et les huîtres, c'est De l'autre côté du miroir. C'est pas Alice au pays des merveilles.
Oui, c'est la version Disney qui a baisé tout ça.
Qui a un peu mélangé tout ça. Alors, les deux livres sont très proches, mais ils ont quand même un état d'esprit très différent. Donc voilà. Là, il y a énormément de références à De l'autre côté du miroir, notamment quand on y joue en anglais. La plupart des titres de chapitres sont inspirés des titres de chapitres de l'autre côté du miroir.
Ah, j'ai pas fait gaffe.
Bien joué. Bah oui.
Alors, il n'y a pas tous, hein, mais il y en a deux ou trois qui sont très clairement soit un jeu de mots, soit une inspiration. Donc c'est assez classe. Et donc, Cheshire, c'est le Cheshire Cat, c'est le chat. Le fameux chat qui disparaît, qui est très facétieux. Bref, donc Cereza a sa petite peluche chat, à laquelle elle tient beaucoup. Elle s'entraîne dur pour devenir une sorcière, mais c'est très 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 compliqué, parce qu'il faut qu'elle s'entraîne, à danser, il faut qu'elle entretienne sa chevelure, comme n'importe quelle sorcière, et elle invoque des démons, et ça marche pas toujours, parce que normalement elle est censée contenir le démon dans ses cheveux, mais elle est encore un peu jeune, ça marche pas toujours.
Encore assez.
Voilà, et elle en a pas encore assez. D'ailleurs, il y a tout un truc à la fin du jeu, je vais pas spoiler encore une fois, mais sur ses cheveux, qui est une petite séquence très émouvante avec ses cheveux. Ça reprend un peu cette idée de cheveux et tout qui est assez marrante. Le démon se retrouve incarné dans son chat en peluche, ce qui lui fait très plaisir visiblement, et elle peut pas le renvoyer chez lui. Dans le plan démonique ou je sais pas trop quoi là. Elle sait pas faire tout bêtement. Donc si le démon s'éloigne, ben en fait il commence à souffrir. Il faut qu'il reste à côté de Bayonetta parce que c'est elle qui l'a invoqué. Et en même temps il est dans une peluche de chat donc ça le fait bien chier quoi. Donc l'histoire commence comme ça et on se retrouve projeté dans cette forêt mystérieuse à combattre les fées maléfiques. Particularité du gameplay de ce jeu. Grosse particularité, c'est qu'en fait, la partie gauche de la manette sert à contrôler Cereza. Donc le stick gauche sert à faire bouger Cereza. ZL et R servent aux différentes actions de Cereza. Et d'ailleurs, la croix directionnelle sert aussi à se soigner, augmenter ses pouvoirs, se protéger, et ainsi de suite.
Ça, utiliser les objets. Quoi.
Utiliser les objets. Et la partie droite de la manette sert à contrôler Chouchou, le démon. Donc le stick droit contrôle le démon, véritablement. ZR ça sert à taper, R ça sert à esquiver je crois, et les XB à Y, les boutons de façade servent à changer de pouvoir. Alors à un moment on tombe sur des pierres élémentaires qui font Earth, Wind and Fire quoi, comme d'habitude, et donc on peut changer comme ça le pouvoir de chouchou, pour ça peut devenir un chouchou de forêt, un chouchou de feu, un chouchou de glace, un chouchou d'eau et ainsi de suite.
Ouais, attends, je te coupe. Hugo, oui, ça ressemble un peu à Astral Chain dans le gameplay, sauf que de mémoire dans Astral Chain, la commande de la... Je vais appeler ça une lame, je sais plus comment ils appellent ça. C'était un peu moins nécessaire que dans celui-là. Dans celui-là, ouais. T'es vraiment obligé de...
C'est ça.
De te splitter. Tu vas pas faire un AVC, hein. T'es pas obligé de te splitter le cerveau, mais le jeu t'impose à certains passages de contrôler un personnage, puis l'autre... Et tu peux contrôler les deux en même temps si tu veux gratter un peu de temps.
Tout à fait. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs là-dedans, c'est qu'il y a à la fois des phases d'exploration dans la forêt où il y a quelques phases de combat mais qui sont finalement assez limitées. Il y a quelques arènes que tu vois venir un peu de loin. Où, tout d'un coup, tu arrives dans un endroit, il y a un grand plateau rond. Bon, tu sais que tu vas avoir une petite arène, tu sais que tu vas combattre. Voilà, c'est un grand classique dans ce genre de cas-là. Donc, dans les phases d'exploration dans la forêt, il y a pas mal de trucs où il faut être à deux, effectivement. C'est-à-dire, faut contrôler Chouchou d'un côté, Cereza de l'autre, et arriver, entre guillemets, à collaborer avec soi-même. Donc, activer les bons trucs aux bons endroits, sur un personnage, puis sur l'autre, alternativement, pour arriver à avancer. Donc, il y a pas mal d'énigmes et de choses comme ça qui sont faites là-dedans.
Mmh. Et dans les combats. Elles sont pas très compliquées, mais elles sont toujours satisfaisantes.
C'est ça. C'est ça. C'est extrêmement sympathique là-dessus. Et t'as effectivement tout un tas de trucs marrants là-dedans.
Il y a vraiment la sensation de dérouler le puzzle. Quoi. C'est très plaisant.
C'est exactement ça. Ça me rappelle beaucoup Pie Takes Two, un des jeux que j'avais critiqué sur le dojo, qui était Brothers, A Tale of Two Sons.
Brothers,
effectivement,
ouais.
C'était le même système. Sauf que Brothers, A Tale of Two Sons était un peu limité là-dessus. Alors que là, il y a vraiment des choses intéressantes parce que en termes de gameplay, ils ont vraiment essayé d'utiliser le plus de boutons possible de la manette. Et effectivement, il y a des moments où il faut être chouchou forêt pour pouvoir aller récupérer un machin à un endroit que tu vas tirer, qui va permettre à Cereza de monter à un autre endroit,
yes.
Qui va activer un switch. Enfin voilà, le truc s'enchaîne assez bien.
Et il faut que je le place tout de suite. J'ai toujours pas écrit l'article, mais il faut que je le fasse. Mais il faut que je vous parle de Blanc et c'est le même délire. Vraiment, les deux personnages se complètent, sauf que Blanc, disons-le tout de suite, avait la particularité d'être vraiment fait pour être joué à deux.
Alors que
celui-là,
là, étonnamment,
joue tout
pas du
seul.
tout. Il se joue seulement tout seul, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que ça se serait bien prêté à un coop local.
Oui, alors ça se serait bien prêté, sauf dans les phases où Cereza tient Chouchou dans les bras. Là, le deuxième joueur, il se touche la nouille, quoi.
Alors, sauf qu'à un moment, tu gagnes un pouvoir qui te permet de moins te toucher la nouille.
Ok.
Mais voilà, je n'en dis pas plus, mais il y a un moment où tu as un petit pouvoir qui te permet de faire un petit peu autrement. J'en étais où? Donc effectivement, Joy-Con gauche pour Cereza et Joy-Con droit pour Chouchou, sachant que dans les combats, c'est souvent très utile. Alors Cereza ne peut quasiment pas combattre, en fait.
Elle fait du contrôle, c'est un support.
Ouais, c'est plus une espèce de support, c'est-à-dire qu'en fait elle va... alors elle peut prendre des coups, mais elle va effectivement essentiellement faire du support, c'est-à-dire finalement bloquer les ennemis. Lancer de temps en temps des sorts un peu particuliers qui vont les étourdir. Voilà, elle va plus être effectivement dans lancer
C'est
des
ça,
sorts,
fait
mais qui vont.
du contrôle.
C'est ça, du contrôle, c'est bien ça, du crowd control presque dans certains cas. Ce qui fait qu'en fait, t'es quand même obligé à un moment, dans certains combats, surtout vers la fin du jeu, d'être un peu bicéphale, parce qu'effectivement, il y a vraiment des moments où t'as besoin d'enchaîner une entrave qui permet de bloquer un ennemi. Certains coups de chouchou, puis un sort, puis un autre truc, donc t'es vraiment obligé de penser en disant ok, gauche, droite, gauche, droite. C'est rarement en même temps, mais t'es vraiment obligé de faire du en même temps. D'être à la fois de gauche et de droite du Joy-Con.
Waouh, très
Ça va
politique
loin.
cette émission.
Ça va très très loin. Voilà, donc franchement, ça marche plutôt bien. L'esthétique du jeu est absolument fantastique. Je sais pas si tu veux
Oui.
en parler un petit peu,
Alors, je
Nectan.
disais en off, il faut que je vous en parle. On a eu beaucoup de retours sur le forum qui disaient le jeu est moche. Ne le jugez pas par les screenshots. Parce qu'effectivement, sur les screenshots, on a l'impression d'un gloubi-boulga de couleurs et de traits qui partent un peu dans tous les sens. Ça ressemble à un joyeux bordel. Quand tout ça est animé, ça marche super bien, c'est très très beau, et ça a vraiment une esthétique d'aquarelle de livres de contes pour enfants, pas de contes pour enfants, on s'en branle, de livres de contes, parce que les contes à la base, c'est vachement plus glauque que ce que Disney vous a mis dans la tête. Donc il y a cette esthétique aquarelle et qui est reprise dans l'intégralité du jeu. Donc, dans les phases de gameplay, forcément, dans les menus. Et ce que je te disais en off, c'est que je trouve l'écran de sauvegarde et l'animation de sauvegarde très belles. Et
Je
ça donne
confirme.
vraiment une ambiance très particulière, quoi.
C'est ça, il a vraiment une très belle ambiance. En fait, de ce point de vue-là, il me rappelle beaucoup Tandem, Tales of
Oui,
Shadow,
oui, oui,
qui est un peu dans le
oui.
même état d'esprit. Un peu, on va vous raconter une espèce de conte pour enfants où il y a plein de. Effectivement, plein de. Je sais pas, tu vois, de livres ouverts, de pages, de choses comme ça. Il y a toute une esthétique autour du livre et du
D'ailleurs,
livre de contes.
quand on dit ça, il y a vraiment un narrateur qui raconte l'histoire. Les scènes cinématiques, c'est des pages animées qui se tournent.
Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que la narratrice, puisque c'est une narratrice, elle fait toutes les voix. Comme quand ta grand-mère te racontait une histoire quand t'étais petit, tu sais, et elle faisait la voix du grand
Ah ouais,
méchant
c'est
loup et
vrai.
du héros. Et donc là, c'est la. Même Cereza elle-même, je crois, ne parle même pas, j'en suis pas sûr, là, tout d'un coup, dans le
Si, elle a
visor.
des petites onomatopées, des petites phrases
Oui,
qu'on peut
mais
voir, des points
quand.
d'intérêt, mais...
C'est ça, mais quand elle parle, en fait, le narrateur fait genre. Et là, ils arrivèrent dans la forêt. Oh là là, c'est drôlement beau, dit Cereza. C'est vraiment de la merde, dit Chouchou. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi.
On
Et.
dirait Mortal qui fait la voix de Jean Fulgence.
C'est. Bah, c'est. C'est exactement ça. En fait, c'est Jean Fulgence qui a doublé l'intégralité du jeu avec une voix de grand-mère. Mais en plus, c'est une voix de féminine un petit peu âgée. En tout cas, qui
Ouais,
semble un petit peu
c'est
âgée.
vrai.
Donc, ça fait vraiment ta grand-mère qui est en train de te raconter une histoire. Je trouve ça assez intéressant aussi. Voilà, toute l'ambiance et l'esthétique du jeu, de manière générale, est vraiment très très réussie. Il y a assez peu de points négatifs là-dessus. Il y a peut-être quelques. Et en plus, alors. On précisait effectivement que quand tu regardes un screenshot, effectivement,
Ça fait
ça
bordel.
fait bordel. Quand tu es en jeu, en fait, il y a tout un jeu comme de patchwork ou de tissu qui se superposeraient les uns les autres. T'as tout un effet. Alors, t'as pas d'effet genre pop-up book, mais pratiquement dans certains cas.
Presque, ouais. Ça joue beaucoup avec les contours.
C'est ça.
Je me suis jamais senti perdu, quoi.
Alors, justement, alors non seulement quand c'est en mouvement c'est très très joli, mais en plus je ne me suis effectivement jamais perdu alors que j'avais vraiment peur de tourner en rond dans des décors qui se ressemblent beaucoup. Mais en fait, il y a une petite astuce, tu as effectivement les pattes du loup blanc que tu suis qui te guident jusqu'à quasiment la fin du jeu.
Ok.
Et en fait, ça a l'air de rien comme ça,
Tiens,
mais
bah encore un clin d'œil d'ailleurs.
Oui, effectivement. Encore ces petites touches de bleu très vif, en fait, avec une direction, te guident énormément dans le jeu. Et elles réapparaissent systématiquement. C'est-à-dire, si tu t'éloignes du chemin pour aller
Oui, pour aller voir une
visiter
merde
The
qui
Bruce,
brille à
en
côté.
fait, tu as des pattes qui réapparaissent une fois que la merde brillante, tu l'as récupérée. Tu as des pattes qui apparaissent qui n'étaient pas là quand tu y allais, pour justement te remettre sur le droit chemin. Le jeu est vraiment super malin là-dessus. On te guide vraiment dans les décors. Je pense que sinon, ce serait extrêmement compliqué, hein, parce que c'est vrai que c'est très tortueux.
Oui, alors c'est tortueux, c'est pas du monde ouvert, c'est quand même globalement sur un couloir.
Alors, c'est pas du monde ouvert. Vers le
C'est des
chapitre
autres.
7-8, on commence à te dire, eh, ce serait bien de retourner à tel endroit. Et en fait, tu te rends compte
D'accord.
que quand t'as le pouvoir X ou Y, bah tiens, en fait, tu vas pouvoir explorer un peu plus. Alors, ça reste très limité.
Bon, voilà, ça reste des zones connectées, quoi.
C'est ça. C'est plus des zones connectées. On peut pas l'appeler un métro. Je l'appellerais pas un monde ouvert, faut pas exagérer, mais t'as quand même un peu de backtrack. C'est pas non plus du Metroidvania dans le sens où le backtrack n'est absolument pas obligatoire. Tu peux faire tout le jeu en ligne droite. Il y a des moments où on t'oblige à revenir à certains endroits de la forêt, mais en fait c'est pour des raisons narratives ou pour récupérer des objets importants. Et globalement, tu visites le jeu niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Voilà. Dernière chose que je voulais rajouter, oui, c'est le jeu va peut-être vous paraître un peu mou. Au départ, c'est vrai
Oh,
qu'il est.
ouais, c'est le début. Alors,
Voilà.
le début est très lent. Je sais pas si le temps que l'histoire démarre, le temps qu'on vous la raconte, tout ça cache le tuto. Hein. On parle entre connaisseurs. Salut Kerbix. Ça met un peu de temps à démarrer. Après, une fois que ça démarre, ça cause moins et on est plus dans le. C'est pas de l'exploration, mais dans j'avance sur le chemin, je résous les puzzles, je me tape les combats et je passe à l'étape d'après.
C'est ça, il y a pas, voilà, y a vraiment les chapitres 1, 2, je dirais même jusqu'au 3, c'est un peu mou, après ça accélère un petit peu, effectivement ça masque le tuto, mais étant donné les contrôles un peu particuliers dont on a parlé pour ne pas être perdu, en fait au départ moi je me suis dit merde c'est mou, ça fait chier et tout, et en fait quand tu vois la quantité de possibilités qu'il y a en gérant les deux personnages en même temps, tu dis non en fait c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait eu un tuto un peu long.
Ouais, non, c'est ça. Il y a deux boutons et un stick par personnage, mais mine de rien, la combinatoire de conneries qu'on peut faire avec, elle explose assez vite. Du coup, c'est cool.
Effectivement, c'est assez cool. On va s'arrêter là, du coup, pour Bayonetta Origins Syriza and the Lost Demon. On va s'écouter un petit morceau de la bande originale du prochain jeu, qui est composé par Yasunori Mitsuda et Johan Hoag, qui est notre
Gloire.
chant. Et donc, c'est un petit morceau de la bande-annonce de la bande originale de Xenoblade Chronicles 3. Je ne crois pas que ce soit un morceau de ce dernier DLC, en l'occurrence. C'est Future Awaits. Un morceau qui dure un tout petit peu plus de 4 minutes et demie. On se retrouve tout de suite après.
You're standing at a loss in front of a door that's been closed for so long. With your foreseeing eyes, what do you see? Until you open it, you cannot know. Afraid to see what could be on the other side. Oh, can't you see how much too long? 'Cause everything you've said, you find it there. In a future,
et nous voilà de retour. Et donc, Xenoblade Chronicles 3, qui n'en finit pas de finir, parce que là c'est le.
Un futur retrouvé, un avenir retrouvé.
DLC, donc tu nous as indiqué qu'il était à faire impérativement après avoir fait
Oui.
les autres jeux, sous
Alors,
peine de louper beaucoup de trucs,
à
et
minima.
l'intégralité Xenoblade 3.
Voilà, à minima, après Xenoblade 3, sinon vous allez vous faire spoiler un truc majeur au bout d'une demi-heure.
Cool. C'est
Voilà.
le truc met pas du tout les pieds dans le
Alors,
plat.
majeur, c'est pas. Voilà, ça va pas vous ruiner, mais. C'est un twist du scénario de Xenoblade 3 qui va vous être révélé là, comme ça gratos au bout d'une demi-heure en mode bah c'est bon, le joueur connaît. Vaut mieux connaître avant de le voir, sinon c'est un petit peu dommage. Et si vous avez fait Xenoblade 1 et 2 avant, c'est mieux pour comprendre pourquoi certaines scènes sont absolument épiques. Si vous ne les avez pas fait, bah, ce sera un moment sympa, mais vous allez louper le...
l'instant, du truc,
oh my god, oh my god, qu'est-ce qu'il fout là, lui, comment il est arrivé là, quoi.
Et du coup, quelles sont les petites nouveautés de ce jeu?
Donc,
enfin, de ce DLC.
Niveau scénario, donc on est toujours sur du Xenoblade, donc c'est très bien écrit, c'est très philosophique si on gratte un peu, les personnages sont toujours aussi excellents, et je le place, ça réutilise énormément de morceaux de la BO de Xenoblade 3 qui était un chef-d'œuvre, donc pas de souci là-dessus. Les ajustements vont être au niveau du système de combat, forcément. On n'est pas dans un dégraissage comme Torna pouvait l'être pour Xenoblade 2.
Donc, parce qu'on rappelle, Torna c'était vraiment la version
dégraissée, quoi.
Ouais, vraiment, enfin streamlinée, simplifiée. Il restait le muscle et l'os et c'est tout. Il y avait vraiment plus de gras. Hein.
C'est ça. Là, on est sur presque strictement les mêmes mécaniques, seulement le jeu se passant avant. Il y a, je fais attention à pas spoiler. Le jeu se passant avant Xenoblade 3, il y a un certain événement qui n'a pas encore eu lieu, et du coup, il y a certaines mécaniques de combat qui ne peuvent pas exister. Qui ne peuvent pas exister.
D'accord, ne peuvent physiquement pas exister.
Voilà. Mais qui sont remplacés par des équivalents qui passent crème et qui, au final, manette en main, sont la même chose.
D'accord, donc c'est scénaristiquement justifié le fait que tu ne l'as pas, mais en même temps on te laisse la possibilité de le faire plus ou moins quand même, c'est ça?
C'est ça, on te donne un équivalent qui est tout à fait bien. Si je parodiais, c'est la Master Sword n'existe pas, mais on te donne un Opinel, quoi.
Oui, et avec un Opinel, on peut aller loin.
Voilà. Oui, on peut très bien tondre la pelouse à l'Opinel. C'est un peu plus galère, mais...
C'est un peu plus long, mais on y arrive.
Ouais. Le système de duo est toujours là. Alors oui, donc c'est globalement le même système de combat, mais il y a des petits ajouts qui sont très intéressants. Donc notamment autour du système de duo, là où dans le jeu, dans le Xeno 3 d'origine, les duos étaient fixes, donc liés au scénario, les duos étaient figés. Dans celui-là, les duos sont customisables. Donc tout ce qui est attaque en duo, on peut choisir de dire bon bah tel personnage va agir en duo avec un tel autre. Et ça te permet de customiser des bonus passifs et des bonus qui interviennent dans le fameux système d'enchaînement propre à la série.
D'accord.
Ça c'est très très bien.
Tu as donc un peu plus de possibilités de personnalisation de ces fameux duos.
Ouais, ouais. Donc voilà, donc le système de combat, c'est le même avec ces petites particularités qui font qu'il est un peu plus customisable qu'avant. D'ailleurs, le jeu va encourager... alors ça me tue toujours, mais il y a des gens qui découvrent qu'on peut changer de personnage jouable dans les Xeno.
Ah,
le personnage qu'on contrôle.
Oui, on peut, oui, je confirme.
On peut. Xeno 3 t'encourageait à le faire pour maxer le système de classe qui était propre à cet épisode. Là, dans ce DLC, on t'encourage très fortement à le faire pour l'espèce de... d'art ultime des personnages qui n'ont pas forcément se déclencher tout seul. Donc en plein combat, ça t'encourage à changer régulièrement de personnage jouable pour voir, ah tiens, il y a l'ultra de machin qui est dispo, oui c'est le bon moment de la lancer, lançons-la.
D'accord, donc le truc te guide un peu là-dessus ou t'encourage très fortement?
T'encourage très fortement dans le tuto. J'ai pas vu d'indicateur graphique, je sais pas si tu te rappelles dans le 2, tu avais les personnages qui te disaient oui. « Hey, je suis prêt à comboter, vas-y, lance le début du combo et je te suis. »
C'est ça, ils disaient un truc genre « Si tu y vas, je te suis » ou quelque chose comme ça. Ils avaient chacun une petite réplique, mais qui était intradiégétique pour indiquer au joueur que là, maintenant, s'il appuyait sur le bon bouton, il y avait moyen de faire un truc avec des gros chiffres à l'écran. Quoi.
Alors, c'est peut-être parce que... Donc, j'ai fait ce DLC après avoir terminé le 3. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a certains éléments de tuto qui sont zappés. Donc notamment le système de feinte. Alors, système de feinte, rappelons-le. On peut lancer des armes, mais si on les lance pile après une auto-attaque, ça déclenche ce qu'on appelle une feinte, qui fait un petit bonus de dégâts, qui va aller faire gonfler une jauge. Une jauge qui va servir à lancer des attaques boostées. Ça, dans ce DLC, ce système de feinte, il est dispo dès le début, mais il ne m'a pas été expliqué. Alors, il m'a peut-être pas été expliqué, parce qu'il m'avait déjà été expliqué dans le jeu complet.
Ah oui, c'est, ça reprend quand même l'essentiel des mécaniques du jeu complet. Donc effectivement, ouais. on n'est pas... Il y a quelques petites nouveautés dont on parle là, mais on est globalement à la maison, que ce soit avec le système d'art, le système d'auto-attaque, le machin, et en plus, la couche Xeno 3 qui est venue rajouter les choses par-dessus,
ouais.
C'est pareil, elle est conservée à l'identique.
J'ai pas fait gaffe, donc les tutos sont toujours accessibles a posteriori, c'est très bien. J'ai pas fait attention si c'était toujours disponible, mais dans Xeno 3, à tout moment, on avait accès à une salle d'entraînement en fait, qui permettait de tester les mécaniques. Si on avait du mal à les comprendre, pour les apprendre, c'était bien. J'ai pas fait attention si c'était toujours dispo dans le DLC. Alors, je dis ça, c'est parce que c'est comme l'épilogue de Xenoblade 1, le DLC se lance à partir du menu principal et il est considéré comme un deuxième jeu.
Oui, c'est considéré comme une espèce de standalone, quoi. C'est vraiment une histoire complètement à part. C'est pas un ajout de l'histoire originale, c'est vraiment.
Non, il se lance à part. C'est pas dans le jeu principal, il faut aller parler à un tel pour le lancer. Non, c'est vraiment un jeu à part. Voilà. Alors, la grosse particularité. Dans Xeno 3, le système d'XP, donc après chaque combat, on gagnait de l'expérience qui servait à monter un niveau et des points d'art qui servaient alors, soit à augmenter les arts, soit à augmenter quelque chose dont je ne vais pas parler pour ne pas spoiler quoi que ce soit. Et les emplacements de gemmes et d'accessoires se débloquaient avec les niveaux. Là, dans celui-ci, en fin de combat, on gagne uniquement de l'expérience. Et les points d'art sont remplacés par ce qu'ils appellent des points d'entente. Et ces points d'entente, pour se débloquer, il faut aller faire des quêtes secondaires. Donc le truc qui va alimenter le sociogramme, pareil qu'on aime bien dans la série.
Tout à fait. Ouais. Même système que Xeno 3, finalement, où on t'encourage beaucoup à faire les quêtes secondaires, justement, pour remplir le sociogramme et tout ça. Donc...
Voilà, dans Xeno 3, elles avaient vraiment un intérêt scénaristique. Là, elles sont juste là pour dire, bon, bah, machin, maintenant, c'est mon copain.
Maintenant, c'est mon sauce.
Voilà. Et où, donc, pour ces points d'entente, on peut aussi en gagner juste en explorant la map, donc en allant chercher des coffres, des points d'intérêt, les petites scènes d'amitié entre deux personnages, ou en remplissant, c'est pas un Pokédex, mais...
Pokédex, non, mais c'est bien, c'est bon, on est tombé loin, là.
Mais c'est en gros... tous les petits mobs sur la carte ont une icône en plus au-dessus de la gueule et il y a tout un tas de petites missions, genre il faut aller péter la gueule de 2 à 5 fois, j'en suis à certains mobs à la con, pour compléter ce bestiaire. Alors une fois que c'est fait, c'est cool, parce qu'une fois que c'est fait, le petit mob, quand tu le vois de loin, il a une tique verte au-dessus de la... une coche verte au-dessus de la tête pour dire c'est bon.
C'est l'encyclopédie de la castagne, en fait. Tu génocides la moitié de la planète, mais t'inquiète, c'est bon, c'est juste pour remplir le dico.
Tu génocides la faune, Tu génocides la faune, en même temps, ça te fait gagner des niveaux qui vont simplifier la courbe de difficulté. Parce que tout ça, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas tes arts suffisamment développés, tu n'auras pas ouvert les coffres qui contiennent des choses qui vont te permettre de débloquer des emplacements de gemmes ou d'accessoires supplémentaires pour booster tes personnages. Et tu risques de te heurter à des petits murs de difficulté devant les boss.
Oui, alors même si je me rappelle bien, c'était un peu le même principe dans Xeno 3, où si tu rushais un peu trop vite, tu pouvais te retrouver à être 2-3 niveaux en dessous, et 2-3 niveaux en dessous, on en chie un peu, quoi.
Voilà, c'est même pire que ça, c'était tu pouvais carrément arriver devant un boss où tout le monde était là... ah oui, c'est lui qui t'a fait ça dans le passé et tout, et toi t'étais des QA. Alors que si t'avais pris la peine de faire la petite quête avant, t'avais un peu plus le background du personnage et la scène d'affrontement était du coup plus chargée émotionnellement. Quoi.
Effectivement. En parlant de zone à explorer et tout, la zone est la même ou c'est une zone plus petite, plus grande,
alors,
différente? C'est une sous-zone, c'est une île, c'est...
J'ai pas terminé. Là où j'en suis rendu, c'est pour moi une nouvelle zone qui est zone à la Xeno, hein, donc très ouverte, très très jolie, mais où globalement le chemin à suivre est balisé. Ça va être vas-y, suis la plaine machin, tire tout droit, va dans la grotte et basta. Après, libre à toi, pardon, libre à toi de zigzaguer dans la plaine pour aller trouver les monstres uniques, toutes les petites conneries cachées à droite à gauche, qui vont te permettre justement de débloquer ces points d'entente pour booster tes personnages et en chier un peu moins après.
Donc tu as le droit de jouer à la pie, en fait, et dès que tu vois un truc qui brille, tu fais « Ah, un truc !» et puis tu peux y aller. Voilà,
c'est ça.
Tu es encouragé même à le faire. Enfin, dans les Xeno, ça marche assez bien, en fait. T'es souvent dire « Je vais là, puis là, ah, il y a un truc qui brille !» et puis tu... au revoir.
Ouais.
Façon Breath of the Wild, hein, c'est
non, mais un truc qui brille. Et des fois, la récompense, c'est juste un panorama.
Ah,
ça classe, quoi.
C'est sympa, oui, c'est un point d'intérêt, mais qui est juste panorama. Oui.
C'est juste avec un point d'observation au bord d'une falaise tout en hauteur qui te permet d'avoir une vue globale sur le monde. Et puis là, généralement, t'as une petite scène où les personnages s'extasient devant la beauté du monde qu'il faut protéger.
Avec le pouvoir de l'amitié, donc.
Pas trop dans celui-là, mais on va pas trop en parler. Parce que
on va pas trop spoiler. Tu voulais remettre peut-être une couche sur la BO.
Alors oui, la BO, donc, comme je disais, on reprend beaucoup de thèmes du jeu de base, sachant que, bon, ouais, tant pis, ça je le spoil, petite scène à la con au bout de 10 minutes, où le quatrième mur se fait violer, tu as un personnage qui est entouré d'enfants, machin, qui dit « bon allez les gosses, calmez-vous, venez, je vais vous jouer du piano, qu'est-ce que vous voulez que je vous joue ?» Et là les enfants disent « j'aimerais bien que tu nous joues la plaine de Gore ».
Qui est donc une des musiques du jeu.
Une musique de Xeno 1. Voilà, donc ça revient à... Si vous l'avez pas fait, ça passe, c'est un moment mignon. Si vous avez fait Xeno 1 en entendant ça, vous avez la banane, quoi.
Ouais, je vois tout à fait le genre de moment que ça peut produire. Je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé des personnages non plus.
Alors, les personnages, donc ils sont tous... Alors, ils sont inédits,
Ils sont tous inédits.
Mais... pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que si vous avez fait Xeno 3, arrivé à un certain point du jeu, vous avez une salle avec des statues, je vais en dire plus, ces statues, eh ben c'est les personnages de ce jeu-là.
Oui, comme ça se passe avant, c'est
comme ça se passe avant, voilà, donc dans le jeu de base, c'est les légendes locales. Et ils sont très, mais très connectés aux personnages des jeux précédents.
D'accord, oui, comme Xeno 3 qui était... je crois que c'est Antix qui disait que c'est une espèce de jeu pourri de Xenoblade Chronicles, en fait, c'est-à-dire que ça rappelle plein de choses des épisodes précédents.
Et c'est justifié par le scénario, c'est ça qui est très cool. C'est
ça qui est très cool. Et donc là, cette habitude continue, quoi. On continue à justifier les connexions.
Et là, alors, je vais en parler parce que c'est dans la bande-annonce, mais tout ça justifie le retour de Shulk et de Rex. Donc Shulk, héros du premier, et Rex, héros du deuxième, mais qui a grandi et qui est devenu très 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 badass.
Il est passé de récupérateur à... Enfin, il tenait une casse automobile à la base.
Ouais, non mais là voilà, là il est plus mercenaire, désabusé, c'est cool.
Tataneur de cul. Est-ce que nous avons d'autres choses à rajouter sur ce jeu? Je crois qu'on est un peu au bout.
Ouais, voilà, donc c'est un... Je vais me répéter, je vais conclure comme j'ai introduit. Hein, Xeno 3 était votre premier, c'est une très bonne extension. Si vous avez fait les 3 Xeno... Le X, on s'en fout, en fait. Le X, c'est vraiment le
spin-off. C'est triste, hein, il va vraiment devenir oublié sur la Wii U à jamais. Hein.
Ouais. Mais si vous avez fait donc, les 3 Xeno qui sont tous disponibles sur Switch, c'est la grosse banane assurée. Et j'ai hâte de le finir, parce qu'a priori, la fin répond à pas mal de questions, tout en balançant 2-3 autres qui peuvent alimenter 2-3 théories pour les prochaines années. Et ça, c'est très bien.
Juste avant qu'on fasse une pause musicale, ça coûte combien, cette petite chose ?
Alors, c'est dans le Season Pass, c'est la quatrième vague du Season Pass. Pardon, la première vague donnait un nouveau héros dans le Xeno 3. Je reviens pas sur le système de héros, hein. C'est des personnages qui t'accompagnent et qui te donnent des classes bonus et puis des quêtes supplémentaires scénarisées très très cool.
Allez réécouter notre émission sur Xenoblade 3, on explique ça avec force détail.
Tout à fait. Est-ce qu'il est bien Xeno X ? Oui, il est bien, mais il est très différent des autres, Hugo.
D'accord.
La vague 2, pareil, c'était un nouveau héros et les défis d'arène. La vague 3, je sais plus, je crois que c'était un mode roguelike dans l'arène.
Oui, ça doit être ça.
Et donc la VAT 4, c'est ce super DLC. Et du coup, le DLC, j'ai toujours pas cherché. Bon, j'ai pas c'est, journalisme
c'est,
total.
C'est ce journalisme total. Non, mais c'est juste pour que les gens se fassent une idée du prix. Pour moi, c'était 15 balles.
Non, c'est un peu
plus cher.
Ouais.
20 balles.
Alors, regarde ça, vas-y, charge, saloperie.
Journalisme total en direct. Hein, je... Il n'y a pas de trucage. Regardez, il n'y a pas de fil. Pas de trucage. Tout est.
Tu sais, je suis en train de charger la page, donc la page rame du cube, évidemment. Je l'ai déjà acheté, je n'aurais peut-être pas le prix. 30 balles.
30 balles. Ah oui, donc c'est effectivement un peu le même genre de prix auquel était Torna, qui était à peu près à 30 balles en boîte, 30 ou 35 balles en boîte.
C'est ça. Sauf que là, a priori, il ne sortira pas en boîte.
A priori, il ne sortira pas en boîte. Peut-être au Japon, c'est possible, mais voilà.
Ça, ou dans une édition ou sur cartouche, il y aurait la totale. J'y crois pas une seconde, mais pourquoi pas.
Ouais, j'y crois moyen aussi, mais bon, ça peut arriver. Je ne perds pas espoir. Après tout, on a Alien Isolation, hein, qui est sorti en boîte au bout de 4 ans. Donc,
ouais, ça c'est incroyable, ça.
C'est incroyable, ouais. Ben, je crois bien que je vais le précommander, hein, parce que...
Ah oui. Très bien, Alien Isolation.
Ah bah oui, complètement. Non, mais en plus, le pire, c'est que j'ai fait le jeu sur PC, donc en plus, une partie du jeu sur PC, donc je sais à quoi m'attendre.
Voilà, et pour conclure la conclusion, vu la fin du 3 et la probable fin du DLC, je pense que Monolith risque de faire une petite pause sur la série, le temps de se renouveler un petit peu. Et Antix va me tuer si jamais j'en parle pas. Dans le DLC, il y a des refs à Xenogears.
Je te coupe, il faut que...
Il y a des refs à Xenogears, voilà.
Oui, effectivement, il nous avait mis, mettez bien, il y a plein de références à Xenogears et il, je cite, adore quand Xenoblade fait des références à Xenogears.
Voilà.
Effectivement, ça fait plaisir à tout le monde. Eh bien, nous allons parler du troisième jeu de la soirée, puisque là, c'est complètement fou. On va s'écouter un petit morceau sélectionné par Jean Fulgence, d'ailleurs, qu'on remercie, de la bande originale de Advance Wars 1. Remixé pour Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp. Il s'agit du thème de Sami et on se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes. Et nous voilà de retour. Alors, je suis désolé, on s'est un peu fait surprendre par la reprise. Le morceau est très répétitif, donc il n'y a que 2 répétitions. Donc
c'est la faute à Jean.
C'est la faute à Jean, ouais, complètement, qui a fait le montage comme un gros sagouin. Je dirais même un gros sagouinou. Donc, Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de votre backlog, même si celui-là vous l'avez peut-être déjà fait il y a une vingtaine d'années.
je le place tout de suite, le jeu est sorti pendant que j'étais dans l'avion. Et putain, il s'est rien passé.
Ah non, mais je crois qu'il y a... Ah si, il y a un drone qui a frappé le Kremlin, quand même.
Ah, oui.
Ça commence quand même à être flippant. Si c'est la dernière semaine qu'on a à vivre sur Terre, j'ai été très heureux de te connaître, Mecton.
Tout à fait. Bon, mais tant pis pour le backlog. Hein.
Ouais, c'est un peu ça. On va dire qu'il y a des choses plus importantes. Non, mais voilà, donc Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, c'est donc le. Alors, je sais pas si c'est vraiment un remake, parce que c'est exactement le même jeu, c'est assez impressionnant d'ailleurs.
Pour le coup, on est en plein dans le débat.
Ah ouais, remake ou remaster. Pour moi, c'est plus un remaster, hein. C'est plus effectivement remaster HD, parce qu'il n'y a absolument aucune.
Si, j'en nouveauté. Vois une.
Ah ouais?
Est-ce qu'on pouvait accélérer les animations dans l'original?
On pouvait les supprimer.
Ok. Mais donc, pas les garder et les accélérer.
Si, je crois que t'avais 2 vitesses. Alors, dans le 2, je suis quasiment sûr que t'avais 2 vitesses et t'avais genre animation de combat, accéléré, non. Un truc comme ça.
Ok, merde.
Je suis pas certain, faudrait vérifier, mais.
Du coup, ça aurait fait une nouveauté et donc remake. Mais là, c'est
non.
Clair.
Alors, par contre, il y a comment dire. Je crois que la seule chose que tu avais sur la carte, par contre, c'était que tu pouvais zapper complètement les animations des ennemis, alors que là, tu peux simplement les accélérer.
Ok.
Parce qu'avant, tu pouvais te retrouver où tu disais à la fin de ton tour, en fait, l'ennemi joue, puis ça fait genre écran noir, enfin fondu au noir, revient, et puis tous les ennemis ont bougé. En général, il a rasé la moitié de la carte, et t'es là, genre, ouais, pourquoi ? C'est pour ça que généralement, ça, tu les gardes. Ça. Autant les animations de piou-piou, t'es pas obligé de les garder. Autant les animations sur la carte, je trouve qu'elles étaient un peu plus utiles pour voir un peu la logique de l'ennemi. Bref. Donc, Advance Wars, je vais quand même réexpliquer un petit peu le principe. C'est un tactical qui se joue en case par case avec des armées, avec des soldats. Alors, ce qui est très rigolo, c'est là qu'on se rend compte quand on étudie la série Famicom Wars, je vous en parlerai juste après, qu'en fait, c'est pour de faux. C'est des soldats de plomb, enfin, c'est des soldats en plastique, c'est des tanks en plastique, tout est pour de faux. Toute une esthétique pour de faux comme ça à l'intérieur du jeu qui est très très drôle et qui, je trouve, rend super bien d'ailleurs dans ce remake en 3D, parce que finalement t'as vraiment l'impression d'avoir des petits soldats en plastique.
C'est WayForward qui s'est chargé du truc.
C'est WayForward qui s'est chargé du truc.
Ça marche bien leur patte là.
Ça marche pas mal. Alors il y a un tout petit détail près, mais j'en parlerai un tout petit peu après. Donc Advance Wars, c'est une série de. Voilà, c'est un wargame techniquement. Dans lequel on va aller contrôler des unités qui vont avoir différentes caractéristiques. De vitesse, de puissance de feu, de défense, d'attaque, etc. etc. Et qui, l'objectif est généralement soit d'éliminer complètement l'armée adverse, soit de capturer le QG adverse. Sachant que le joueur contrôle un ou deux généraux. Alors, t'as pas deux généraux, c'est pas Advance Wars DS. Je retire ce que j'ai dit. C'est Advance Wars 1+2, donc tu contrôles un général qui a un pouvoir. Donc en fait, il y a une jauge qui se remplit au fur et à mesure qu'on attaque ou qu'on se fait péter la gueule. Et quand cette jauge est remplie, alors il y a un premier cran et un second cran, on peut déclencher un pouvoir du général, et donc chaque général a un pouvoir particulier.
Attends, il y a deux crans ?
Il y a deux... Non, à partir d'Advance Wars 2, normalement, il y avait deux crans.
Ah, j'ai pas encore fait le deuxième. Je l'ai pas fait à l'époque, et je l'ai pas encore commencé là, même si on peut le commencer dès le début.
Tout à fait.
Et que le jeu te dit, attention, tu vas te faire spoiler des choses... Comme si le scénario du 1 était important.
Alors, je me permets, j'ai un peu de confusance sur le sujet pour une raison très simple, c'est que nous avons rédigé avec Monsieur Jean Fulgence pour la fin de l'année dernière, donc au mois de entre décembre et janvier, une série en 5 parties, donc 5 articles sur la série Advance Wars au complet, c'est-à-dire dans des parties de Famicom Wars, Super Famicom Wars, Game Boy Wars 1, 2, 3, Advance Wars DS, Advance Wars donc Dual Strike, Advance Wars Dark Tomorrow, non c'est pas ça, enfin Dark Conflict. Pour finir sur les Battalion Wars, donc on a vraiment fait une énorme rétrospective sur tous les Famicom Wars, y compris les trucs qu'on n'a jamais eu en Europe à l'époque. Donc il est possible que je confonde quelques trucs, parce que malheureusement moi j'avais fait la partie DS et Wii. Et Jean Fulgence s'était chargé de la partie Game Boy NES Super NES Game Boy Advance. Donc finalement, il avait fait tout le début, j'avais fait toute la fin. Donc il y a peut-être des choses que je vais confondre, donc je m'en excuse par avance. Au passage, je vais me permettre de vous renvoyer vers cette série d'articles. Vraiment, lisez-les. On a vraiment un truc assez exceptionnel. Merci beaucoup.
Voilà,
on a
ça défonce.
Ça défonce grave. Ces 5 articles, ça se lit très 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 vite. Et vous avez un très très bon aperçu du truc. Et aussi, on a essayé de garder sur la fin l'état d'esprit. Quels sont les jeux auxquels il faut absolument avoir joué et quels sont ceux que vous pouvez zapper si vous voulez vraiment, si ça vous intéresse pas trop. Bref. Donc chaque général, je disais, a un pouvoir qui va être particulier. Par exemple, il y a une espèce de grande Adèle avec une petite barbiche, un chapeau qui est dans Advance Wars 2, dont la spécialité est les unités à distance. Et quand il déclenche son pouvoir, ces unités à distance, elles ont genre une case ou deux cases de plus.
Il est déjà dans le premier.
Il est déjà dans le premier. Donc ça vous apporte évidemment un avantage stratégique énorme pour peu que vous soyez sur une carte qui s'y prête. D'où tout l'intérêt des Advance Wars, qui consiste à, pour chaque carte, faut parfois y jouer deux fois, une première fois pour voir un petit peu comment c'est foutu, puis une deuxième fois en disant « Eh, mais avec tel personnage, je pourrais vraiment péter des gueules. » Voilà. Et il y a plein, comme ça, de personnages à croiser. Alors, ce qui est intéressant, c'est plutôt dans les épisodes d'après, où on pouvait croiser même ces pouvoirs-là, c'est-à-dire avoir... Advance Wars DS est un peu pété là-dessus, parce qu'on peut avoir deux pouvoirs d'affilée. Donc jouer en gros deux tours d'affilée avec un pouvoir à chaque fois.
Ah, tu vois, comme dans Xeno 3.
C'est un peu la violence hein, là, parce que c'est vraiment t'as des pouvoirs où quand t'as rempli les deux jauges de tes deux généraux à fond, ouais, en face tu tires la langue. Hein.
Mais je me rappelle plus du tout, l'ennemi le faisait ou pas?
L'ennemi le fait aussi.
Oh, ok, donc ça va. C'est...
Donc ouais. Disons qu'il y a quand même des fois où tu peux déclencher ton pouvoir, gagner la carte quoi. C'est donc des fois ça se joue à qui déclenchera son pouvoir en premier. Hein. Sans blague.
Ah, c'est con ça.
Voilà. Mais donc là, on est dans Advance Wars 1 et 2 qui était à l'origine sur Game Boy Advance. Et donc, on est sur un système de jeu qui est... Alors, le système de jeu de base est toujours le même, c'est plus les à côté qui changent. C'est-à-dire que là, il n'y a qu'un seul général. Il y a normalement une jauge de pouvoir avec deux jauges. Si je ne dis pas de bêtises, si je dis une bêtise, c'est qu'une seule jauge, mais c'est... dans le principe, c'est pas très très grave. Et donc, on se bat avec ces petits soldats et on fait avancer les trucs et on détruit des machins et on capture des villes et on capture des QG. Et c'est quand même... bah, c'est fun, quoi. C'est marrant.
Ouais.
On y retrouve à peu près tout ce qui faisait le sel de la série Advance Wars. Donc, il y a un multi qui n'est pas en ligne, si je me rappelle bien.
Alors, il est... Tu parles de la version Switch ?
Je parle de la version Switch.
Il est entre amis uniquement.
Ah, en ligne entre amis uniquement.
Ouais.
D'accord. C'est peut-être pas plus mal en même
Alors,
temps.
Alors, à moins
parce que
je dise une énorme connerie, mais il me semble que c'est ça.
J'ai pas testé le multi du tout. Je sais qu'il y a un multi avec une seule manette sur une seule console, puisque comme c'est un jeu au tour par tour, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir deux manettes et deux consoles et deux machins. En fait, tu peux juste jouer avec ton pote en te filant la manette.
Ça veut dire que sur les cartes multi, il n'y a jamais de brouillard de guerre.
Alors, je crois que sur les cartes multi, il n'y a pas de brouillard de guerre quand tu joues pas à deux écrans séparés, mais c'est possible que ce soit le cas. Je sais qu'il me semble que c'était aussi le cas sur Advance Wars, je pourrais dire une connerie, où tu avais un mode multi.
Avec le câble,
plusieurs consoles, voilà, avec le câble. Et je crois que t'avais un mode multi sur une seule console où effectivement tu faisais tes saloperies dans ton coin, tu faisais tes crasses dans ton coin et tu passais la Game Boy à ton pote derrière.
Pas rigolo.
Je n'en suis pas certain, mais il me semble que c'était le cas. Mais encore une fois, je veux pas dire de bêtises, je suis pas le spécialiste de la partie Advance Wars en fait. Donc je dois pas dire de conneries. Donc je parle sous le contrôle du public, qui pour l'instant n'a pas hurlé, donc j'en déduis que c'est peut-être pas complètement invraisemblable ce que je dis. Voilà, mais on retrouve tout, y compris le truc qui permettait de créer tes propres cartes.
Ouais.
Et ça, c'est quand même super cool, parce que du coup, tu peux faire des trucs un peu pétés. Et ça le fait. J'ai pas testé voir si on pouvait les partager facilement, genre avec un QR code ou je sais pas quoi, ou avec une espèce de gros code, tu sais, façon...
Mario Maker.
Je suppose que ça doit être plus ou moins possible.
Pas fait gaffe. Mais après, ça m'étonnerait pas que ça soit genre... local sur ta console et tu peux décider sur une partie entre amis de lancer une carte que t'as fait.
Ouais, ce serait pas complètement illogique. Mais voilà, donc sinon c'est vraiment exactement le même jeu, c'est le même scénario, c'est les mêmes cartes. Je crois qu'il y a même pas de carte bonus particulièrement, hein, c'est vraiment
même
exactement
dans les... la
même
dans chose. Les cartes bonus, du coup, il n'y en a pas de nouvelles. Quoi.
Je ne crois pas que dans les cartes bonus, il y en ait de nouvelles, en tout cas j'en ai pas entendu parler, je n'ai pas fini le jeu, hein. J'ai vraiment...
Pareil.
J'ai dû faire les 3-4 premières cartes histoire de voir si c'était la même chose. C'était exactement la même chose. Tu peux mettre la Game Boy Advance à côté, faire les mêmes mouvements, l'IA réagit de la même manière. C'est pas une connerie.
C'est vrai.
Ah ouais, non, c'est impressionnant. Le truc est vraiment. C'est un pour un par rapport à Advance Wars 1 et 2.
Du coup, il y a toujours, le même petit défaut. Je tape dans le négatif tout de suite parce que pour moi, c'est le seul point négatif que je trouve à ce jeu. C'est souvent. Les fins de cartes ont tendance à s'éterniser. Tu sais que la partie est gagnée ou perdue, mais pour aller au bout, ça peut prendre un peu de temps. Et le problème sous-jacent à tout ça, c'est qu'on ne peut pas sauvegarder en plein milieu d'une carte. C'est un peu dommage.
Effectivement. Alors, c'était le cas sur Game of Thrones. Je ne sais pas si ça va être le cas là. Je pense que tu dois pouvoir sauvegarder au milieu de... ou mettre un signé. Je sais que sur le Advance Wars DS, on pouvait le faire.
Alors, c'est vrai que je n'ai pas regardé le système de signé, mais je me suis dit, si le système de signé n'existe pas... Comme la veille de la Switch marche très bien.
Oui, ça peut se faire
comme ça. Passe.
Ça passe. Alors, c'est quand même un jeu idéal, Advance Wars, pour jouer aux chiottes, hein, on va quand même être honnête. Parce que c'est cool, quoi. En fait, en vrai, tu peux lancer un bout de carte, réfléchir, faire 2-3 tours. Ça marche assez bien. Pareil, c'est un jeu qui marche assez bien, les transports en commun. Le truc où, oui, tu peux lancer une carte, tu fais 10 minutes, tu mets en veille. Tu reprends quand t'as chopé le métro suivant. Enfin voilà, ça marche super bien.
Ouais, on sera pas piégé par une... C'est pas comme un Fire Emblem, Intelligent System, je fais des parallèles et tout. C'est pas comme un Fire Emblem où à la fin d'une carte, tu peux être pris au piège d'une cinématique qui va durer 5-10 minutes. Là, non. Là, non, non, si t'as 10 secondes de dialogue à la fin, 10 oui, voilà, de dialogue qui finissent sur une vanne, et ça passe à la suite.
C'est à peu près tout, ouais. Franchement, en termes de scénar, c'est quand même extrêmement limité, hein. C'est pareil, si vous jouez à Advance Wars pour le scénar, ben...
pas
What's
cela,
wrong with you?
Pas cela. Le Dark Conflict, oui, mais pas cela.
Non, même le Dark Conflict, honnêtement...
Un peu plus,
mais bon...
Si, c'est Dark.
C'est ouais, enfin, on s'en est un peu moqué beaucoup avec Jean Fulgence, justement... Parce que c'est vrai que c'est quand même c'est Dark Advance Wars qui est quand même très bizarre quand tu sais toutes les racines de la série avec enfin voilà, c'est la guerre pour de faux quoi, c'est la guerre pour de rire, ça a toujours été. Avec tout un tas de vannes, enfin je sais que par exemple Battalion Wars, les petits soldats que tu contrôles ont plein de petites vannes en fait en VO en tout cas, et ils reprennent des phrases de films de guerre célèbres genre c'était pas ma guerre, je suis trop jeune pour mourir ou des conneries comme ça, mais c'est très très drôle en fait parce que c'est très tourné en dérision.
Ah mais Battalion Wars pour moi c'est Small Soldiers.
C'est exactement ça en plus, c'est vraiment exactement ça, le truc complètement déformé et tout, c'est assez cool. Pour moi le seul vrai défaut de ce jeu là en fait, alors il y a plein de trucs cool comme c'est vraiment une refonte graphique complète. Il y a plein de trucs cool, notamment le fait que t'as plusieurs niveaux de zoom sur la carte, ça c'est quand même une petite nouveauté qui est
oui.
assez sympathique. Tu n'es pas limité au sprite de la GBA qui était de taille fixe, là tu peux vraiment dézoomer, rezoomer, ça te donne parfois un bon aperçu de l'ensemble de la carte, ce qui est très sympa. Et quand tu dézoomes à fond, tu vois le bord de la carte, en fait comme un diorama qui ressemblerait à un bord de table, tu vois, comme si tu jouais à une espèce de wargame sur table, c'est quand même...
Tu joues à Risk et t'as les bords du plateau.
Exactement, c'est le genre de truc qui est assez excellent. Moi, le seul vrai truc qui m'embête là-dedans, c'est que je trouve que le style cel-shading qu'on a pour les cinématiques est super beau, super joli, ça colle super bien au style d'Advance Wars, même l'original, tu prends les artworks de l'original, tu les mets en HD, c'est ça que tu imagines. Et en jeu, je trouve que ça marche un petit peu moins bien parce que t'as cet aspect soldat en plastique qui est voulu, hein. Mais je me dis qu'en cel shading ça aurait quand même eu une autre gueule.
Peut-être.
En tout cas, c'est le seul truc qui m'a fait un peu faire gratter, c'est ça. C'est je me dis, ah, là-dessus. Peut-être que ça aurait été bien d'avoir l'option, par exemple, tu vois, de dire est-ce que je veux le jeu en cel shading ou est-ce que je le veux en plastique cheap des années 80, des jouets des années 80, quoi.
Pour le re-reboot camp, peut-être.
Peut-être que ce sera le cas.
Le doublage. De doublage, alors si le doublage du dernier Mario XCOM, comment ça s'appelle en français?
Lapin crétin.
C'est enfin, ça,
Mario et Lapin crétin.
Donc si le
Kingdom
dernier.
Battle.
Voilà, donc si le doublage de ce dernier Mario Lapin crétin vous avez un petit peu troublé du fait que tout n'est pas doublé, là on est dans le même délire.
Ah merde, ça j'avais pas fait gaffe.
Bah en fait, des fois t'as des dialogues qui sont complètement doublés, des fois t'as juste les débuts de dialogue, et puis des fois pas du tout.
Ah merde, c'est con.
Ouais, enfin, voilà. C'est histoire de gratter.
Pas,
hein.
Ouais. C'est pas gravissime, mais c'est un petit peu dommage. Bref.
Pareil, si tu joues à un Advance Wars pour le doublage.
Pour le dialogue, oui, c'est un peu.
T'as pas tout compris.
C'est peut-être, oui, il y a peut-être mieux à faire. Voilà, donc on voulait juste que cet Advance Wars ne nous échappe pas. Donc le sujet est très court. Hein. De toute façon, encore une fois, c'est exactement le même jeu, donc pas grand-chose de plus à en dire. Je vous invite à lire vraiment les articles, les archives de Cranky que nous avons sortis, parce que ça a été beaucoup de boulot. Il y a quand même quelques heures de taf pour rejouer au jeu, pour écrire les critiques, pour faire les captures et tout ça. Mais ça c'est un peu normal. Mais même pour faire un boulot d'analyse d'évolution de la série au fur et à mesure, ça a été quand même un sacré taf. Et là, on a vraiment... Enfin, j'ai l'impression qu'on a quand même un des dossiers les plus complets sur Famicom Wars en français qui ait jamais été écrit. Donc ça me fait
c'est vrai.
Très plaisir. Je n'en avais que rarement vu avant. Donc on vous le recommande. Et encore une fois, donc si vous n'avez jamais joué à Advance Wars 1 et 2, je vous invite très fortement à jouer à ce remake, parce que, encore une fois, c'est exactement le même jeu, donc vous ne perdez absolument rien, et vous pouvez profiter d'un jeu, d'un wargame, d'un tactical, super bien fini, extrêmement jouissif, et ainsi de suite.
Advance Wars, à l'époque, c'était mon premier wargame. Pour le coup, si c'est votre premier sur la version Switch, ça devrait marcher aussi bien. C'est vraiment une très très bonne manière d'entrer dans le genre.
Tout à fait. Et en plus, oui, effectivement, t'as peut-être moins le côté prise de tête que sur un Fire Emblem, parce que le système est un peu simplifié dans le sens où tu n'as pas le triangle des armes et tout ça, t'as d'autres particularités.
Non, il est plus que triangulaire, là, mais...
Il est un peu plus que triangulaire, mais en fait, on t'explique clairement que, bah oui, les bazookas sont plus forts que les tanks, enfin, il y a quand même des trucs un peu logiques, quoi.
C'est un remake, parce qu'on peut zapper le tuto.
Putain. Et voilà. Et voilà, voilà. Alors, on me dit qui gagne entre Advance Wars et. Alors, je me souviens plus du jeu. On l'avait fait gagner il y a deux ans.
C'est Clone, c'est Warframe.
Non, pas Warframe.
Si, Warframe, le truc où on joue avec. Non, pas Warframe, putain.
Warframe, oui, non, c'est ça.
Le truc où ça jouait avec les chiens, là.
C'est ça. J'ai plus le jeu en tête. Ça
c'est War quelque chose.
C'est War quelque
c'est
chose.
C'est Chuck Duffy. Wargroove.
Merci beaucoup, oui, Wargroove. Wargroove est un sympathique clone d'Advance Wars.
Plus difficile.
Peut-être un peu plus difficile. En fait, Wargroove, ce que je lui reprocherais surtout, c'est qu'il tourne très rapidement. Il y a 4 factions, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre les factions. Et je trouve que le jeu tourne plus rapidement en rond qu'un Advance Wars. Dans lequel il y a peut-être moins de différence entre les factions, mais du coup, tu les prends beaucoup plus vite en main. Et t'as les unités spéciales et tout, donc...
Plus de scénarios dans Wargroove, si c'est ton délire, JBC. Après, oui, c'est un scénario pété rigolo, mais voilà, plus c'est de scénarios.
Et Jean-Fugence te dit, un peu plus équilibré qu'Advance Wars, c'est vrai que t'as un peu moins tendance à rouler sur la carte, mais en fait, ça dépend aussi des unités, parce que je me rappelle que les vampires ou je sais pas quoi, là, c'est vraiment très violent. Il y avait... Enfin, il y a des match-ups, en fait, un truc que tu n'as pas dans Advance Wars, par exemple, mais que tu as là, t'as des match-ups qui sont un peu particuliers, dans lequel les équipes, les vampires étaient plus forts que les loups-garous, qui étaient plus forts que les humains, ou tu vois, des trucs comme ça, qui étaient eux-mêmes plus forts que les vampires. Enfin, t'as des match-ups qui font que l'équilibre est pas si évident à trouver. Mais après, Wargroove, c'est vraiment, oui, c'est un Advance Wars-like, hein, c'est...
Ah, ils s'en sont même pas cachés à l'époque.
Ils s'en sont absolument pas cachés, et c'est un jeu qui est tout à fait sympathique, pour le prix auquel il est sorti, c'est pas du tout une mauvaise pioche. Personnellement, effectivement, j'aurais tendance à préférer Advance Wars, à préférer l'original à la copie, mais voilà, pourquoi pas. Voilà. On va se quitter là, je pense. Donc normalement, la prochaine émission est bien dans 2 semaines. Hein, elle ne sera pas, il n'y aura pas un grand écart là.
Ouais.
Et elle sera
et
bien consacrée.
Octopass Traveler 2.
LOL. C'est ça. Elle sera consacrée à Tears of the Kingdom. Alors, je ne sais pas si on fera toute l'émission, ou peut-être juste une partie. Peut-être qu'on fera juste l'introduction, 5 minutes sur Tears of the Kingdom, puis après on va passer à autre chose. Elle contiendra des morceaux de Méduse dedans, parce que s'il ne vient pas, je vais moi-même en Belgique lui botter le cul. Soyons très clairs.
On va l'amalgamer.
On va l'amalgamer. Et donc voilà, ce sera dans 2 semaines. Je pense que ce sera un sujet unique, sauf s'il se passe des trucs
spéciaux.
Sauf
si ça vaut pas le coup, hein, on sait pas.
Ah ouais, mais on sait pas. Peut-être que
c'est un gros jeu de merde.
C'est ça. Bah, en même temps, si on amalgame une merde avec une merde, avec une merde.
On peut faire un parti politique.
Ou un jeu Sonic. C'est au choix. Voilà,
il
relance le débat.
Il peut pas répondre.
Il peut pas répondre en plus. voilà. En tout cas, en attendant, on vous fait de très 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 gros bisous et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Bisous.